chapitre 37. En ce petit matin de juin, l'ancienne capitale de la France est recouverte d'une brume rasante, opaque, qui empêche de voir au-delà d'une dizaine de mètres. Alice sort de la station de métro Rambuteau en tenue anti-radiation. Sa tête est protégée par un casque. Elle tient le précieux compteur Geiger dans une main et le pistolet dans l'autre. Elle examine les alentours, puis son appareil. Elle se tourne vers Ophélie, elle aussi bien protégée dans sa combinaison orange fluo et restée en retrait, et s'écrie « 30 !» La jeune femme s'approche de sa mère. « Tu en es sûre ?» Il semble que le taux a beaucoup baissé en 20 ans. Mais ce n'est pas encore assez bas pour nous autoriser une sortie sans protection. En tout cas, pas pour nous, les humains normaux. Ophélie ne répond pas. Elle est subjuguée par ce qu'elle voit à l'extérieur. Alice pense à l'allégorie de la caverne de Platon. Des gens vivent au fond d'une caverne, n'osent pas en sortir et ne se font du monde qu'une représentation imaginaire en observant les ombres qui se reflètent sur la paroi. Aujourd'hui, ma fille sort de la caverne, où tout n'est que croyance et illusion, et découvre enfin le vrai monde. Alice elle-même est surprise par ce qu'elle voit. À force de vivre sous terre, elle avait fini par oublier à quoi ressemblait la surface. « Et pour les hybrides ?» s'inquiète Ophélie. « C'est le moment de vérité. Selon mes calculs, les trois espèces, Aerials, Diggers et Nautix, sont capables de survivre en milieu irradié jusqu'à 40 millisieverts. Donc, à 30, en théorie, ils devraient tenir. Le seul moyen de savoir, c'est d'essayer. Vas-y, fais-les monter. » Ophélie disparaît dans la bouche de métro. Elle en ressort quelques minutes plus tard avec Hermès. L'homme chauve-souris est hébété lorsqu'il débouche rue de Turbigo. Inquiet au début, il est immédiatement surpris et ravi par l'absence de plafond. Il éprouve un sentiment de liberté inconnu jusqu'alors. Il ferme les yeux tout en prenant une grande inspiration. Il reste en apnée quelques secondes, puis expire. Il apprécie de respirer de l'air frais. Alors, il sourit et déploie ses longues ailes claires avec délectation. Tandis que le brouillard se dissipe et commence à dévoiler les ruines qui les entourent, il prend conscience qu'il est le premier hybride à sortir sans tenue de protection. Et le seul. Il frétille des ailes. « Attends, Hermès, ne t'envole pas encore !» lui demande Alice. « Assieds-toi ici !» Observons s'il n'y a pas d'effet indésirable comme des vomissements ou des éruptions cutanées. L'aérial obtempère. La scientifique lui prend le pouls, puis écoute sa respiration et ses battements cardiaques. Elle examine ses yeux, sa langue, sa température. Elle lui demande de tousser, de suivre du regard son doigt de droite à gauche. Elle lui tape un genou pour vérifier ses réflexes. Pas de nausée ? Il fait un signe de dénégation. Pas de migraine, de maux de tête, de vertige. Hermès prend encore plusieurs profondes inspirations, puis déploie complètement ses ailes et affiche un air ravi. « Je me sens mieux ici que sous terre », affirme-t-il. « Devant ce ciel infini, je sens une irrépressible envie de m'envoler. » « Bon, eh bien, je crois qu'ils tiennent le coup », dit Alice à sa fille. L'idée de Simon de consolider leur résistance par la mithridatisation aura finalement été payante. Hermès garde les yeux rivés vers le ciel. Des frissonnements d'impatience agitent l'extrémité de ses ailes. « Attends un peu. Ce n'est pas encore le moment », insiste Alice. « On va d'abord tous se réunir pour organiser notre exode. » Les deux humaines font ensuite monter à la surface Poséidon et Hadès, eux aussi abasourdis devant le spectacle de la cité en ruine. Autant Poséidon apprécie l'humidité de l'air, autant Hadès cherche à protéger ses yeux du soleil. Après plusieurs minutes, Alice procède avec eux aux mêmes examens de contrôle qu'avec Hermès. Le résultat est sans appel. Les trois hybrides paraissent adaptés à la vie à la surface. Elle lance d'un ton ferme à sa fille « Vas-y, fais monter les autres !» Un par un, Les 419 hybrides remontent les escaliers de la bouche de métro en une longue file indienne. Ils sont tous sidérés par le spectacle du monde qui se dévoile devant eux. « Pour l'instant, vous restez bien groupés !» ordonne Alice. Tous acquiescent et la procession ainsi formée se met enfin en marche. Alice et Ophélie, facilement repérables grâce à leur combinaison de protection anti-radiation orange fluo, ouvrent la marche. Alice se retourne une dernière fois vers la structure du Forum des Halles qu'on aperçoit au bout de la rue. Adieu, Francky. Et vous, les New Ibiziens, vous n'avez pas voulu accepter ce qui est nouveau. Vous resterez sous terre avec ce qui est ancien. Vous n'avez pas voulu des chimères. Vous resterez entre vous. Faites la fête. Amusez-vous. Nous ne vous dérangerons plus. Vous vieillirez comme vous avez vécu, dans la peur de ce qui est différent et avec peut-être un peu de regret, pour les plus évolués d'entre vous, d'avoir manqué une occasion de changer. Au fur et à mesure de leur avancée, Alice observe avec attention leur environnement. Durant les 20 années où ils sont restés enfermés sous terre, la nature a pris ses aises. Les herbes, les buissons et les lierres sont devenus des arbustes, des arbres qui ont poussé en crevant le béton fendillé ou en prenant racine sous l'asphalte. En dehors des pigeons et des rats, habitants habituels de Paris en toutes circonstances, d'autres espèces d'insectes, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères ont proliféré. Au détour d'une rue, le groupe tombe devant ce qui leur semble être un sanglier, mais qui, après examen plus minutieux, est en fait un porc poilu suivi de ses petits marcassins porcinets. Détail troublant, ils ont tous trois yeux. « Ils ne ressemblent pas à ceux des vidéos de la médiathèque !» remarque Ophélie. « Ils n'étaient pas comme ça avant, en effet, » dit Alice. « Ils ont probablement muté lorsque les radiations nucléaires se sont répandues et ils n'ont jamais dû se retrouver en présence d'êtres humains car ils ne sont pas effrayés par notre présence. Ils ne savent pas comment les humains ont traité leurs ancêtres. » Comme pour confirmer ses dires, les sangliers à trois yeux se contentent de mâcher bruyamment de gros champignons rouges à points noirs qu'ils arrachent du sol. Abandonnant ces animaux à leur festin, le groupe continue d'avancer, parcouru de murmures étonnés. Pour eux, tout est stupéfiant. Il faut que je les laisse découvrir le monde. Vous pouvez explorer les alentours, mais restez groupés, dit Alice. Les hybrides, ravis, s'aventurent dans les magasins remplis de plantes et de poussière. Les objets qui s'y accumulent sont autant de trésors qui les fascinent et les surprennent. Une poignée d'aérials entre dans un magasin de jouets spécialisé dans les super-héros. Ils sont amusés de voir que certaines figurines leur ressemblent. Ils doivent penser qu'ils existaient déjà dans l'inconscient des sapiens. Des nautiques ont trouvé un magasin de matériel de plongée sous-marine et s'émerveillent devant les palmes, les combinaisons et les masques. Des diggers ont, de leur côté, découvert des engins de chantier abandonnés. Ils regardent avec envie ces objets imaginés pour creuser la terre, marteaux-piqueurs, excavatrices et bulldozers. Ophélie repère un magasin d'articles de sport. Sa mère propose à tous de s'y rendre. Les 140 diggers, mais aussi les 139 aérials, s'équipent de lunettes de soleil pour supporter l'intensité de lumière du jour, plus forte que celle des néons qu'ils ont connus toute leur vie dans les sous-sols de New Ibiza. Quant aux 140 nautiques, ils optent pour des vêtements recouvrant leur corps, afin que leur peau fine et fragile ne se déshydrate pas trop vite. Alice et Ophélie récupèrent des sacs à dos qu'elles remplissent d'ustensiles de camping qui pourront servir de matériel de survie. Boussole, couteau suisse multilame, briquets, cordages, pelles et pioches pliables, sacs de couchage, couteaux, machettes, gourdes. Plus loin, dans un supermarché, ils découvrent des conserves restées miraculeusement intactes. C'est quand même incroyable que cette nourriture soit toujours comestible 20 ans après, s'étonne Ophélie. C'est parce que les industries agroalimentaires d'avant-guerre injectaient des conservateurs puissants de nouvelle génération à l'intérieur des produits et les enveloppaient d'épais emballages métalliques, explique Alice. Ces substances chimiques étaient si efficaces que les cadavres humains ne pourrissaient plus. Lorsqu'on devait réouvrir un cercueil pour faire, par exemple, un test de paternité, on retrouvait les corps intacts. Tu veux dire que l'ancienne humanité s'était exclue de l'écosystème ? Regarde, dit-elle en indiquant la silhouette d'une femme encore recouverte de vêtements au sol. Celle-ci n'est même pas complètement dégradée. Mère et fille s'approchent du cadavre. Et ces morceaux gélatineux, qu'est-ce que c'est ? Des prothèses en silicone. Les femmes, et parfois les hommes, s'en faisaient implanter au niveau des seins, des fesses, des lèvres, des pommettes et même du menton, pour paraître plus séduisant. Voilà la preuve que les influenceuses, en tant qu'évolution ultime de l'espèce, ne sont pas complètement biodégradables. L'ensemble de la troupe poursuit sa progression dans le chaos de ce Paris post-apocalyptique. À l'avant, Poséidon, doté des bras les plus puissants, dégage le chemin à grands coups de machette. Cependant, quand se dresse devant lui un enchevêtrement d'épaves de voitures rouillées et de plantes de plusieurs mètres de haut, il est forcé de s'arrêter, et tous avec lui. Hermès prend alors l'initiative de soulever Alice. Il la fait voler au-dessus de ce fatras de métal et la dépose de l'autre côté. Puis c'est au tour d'Ophélie, qui est attrapée et soulevée dans les airs pour franchir l'obstacle. Elle, qui a toujours vécu sous terre dans des espaces confinés, apprécie ce premier bond dans le ciel. L'idée est tout de suite reprise par les autres aérials, qui saisissent les hybrides creusant et nageant, incapables de voler, et les portent de l'autre côté de l'obstacle. Puis l'ensemble de la troupe reprend sa marche. Plus loin, le groupe pénètre dans un tunnel routier, lui aussi bouché en son centre par un éboulement. Cette fois, ce sont les diggers qui, grâce à leurs puissantes mains griffues et à leurs incisives tranchantes, creusent un passage dans le sol et libèrent la voie. Inutile de nous fatiguer à essayer de traverser Paris. Nous serons toujours bloqués par des plantes, des bâtiments effondrés ou des enchevêtrements de voitures, constate Alice. Que proposes-tu ? Demande Ophélie. Ce que nous aurions dû faire depuis le début, prendre la voie fluviale. Avec l'autorisation d'Alice, quelques nautiques se jettent à l'eau. Des péniches flottent encore sur la Seine. Les hybrides en sélectionnent une, dont la coque est restée en bon état, et les diggers utilisent une fois de plus leurs bras puissants, leurs mains griffues et leurs incisives tranchantes pour la dégager des plantes aquatiques qui l'emprisonnent. Puis le groupe monte à bord. Une dizaine de nautiques, placés à l'arrière de la péniche, s'immergent et battent des membres inférieurs en cadence. Grâce à leurs pieds palmés, ils permettent au vaisseau de prendre de la vitesse. Au-dessus d'eux, des aérials servent d'éclaireurs. Après avoir effectué plusieurs loopings et vols planés pour se dégourdir les ailes, ils prennent leur place de vigie. Très vite, ils signalent des barrages d'arbres flottants et de bateaux mêlés. Je ne m'attendais pas à ce que la nature ait à ce point reconquis les espaces jadis domptés par l'homme, soupire Alice. Ils passent devant la tour Eiffel. Elle est restée debout, comme les trois astronautes l'avaient observé depuis le hublot de la navette en quittant l'ISS. Mais lorsqu'Alice l'examine de plus près, elle voit que le monument est désormais transformé en gigantesque tuteur pour toutes sortes de plantes grimpantes qui ont recouvert le métal rouillé. Des faucons tournoient à son sommet, envahis de fleurs et d'insectes. La faune a aussi pris possession des berges du fleuve. Des oiseaux exotiques de toutes les couleurs et de toutes les tailles survolent les rives de la Seine. Il y a des pélicans jaunes. La nature trouve toujours un chemin pour survivre. La diversification en forme, en espèces, en couleurs est l'expression de sa puissance. À côté d'Alice, Ophélie est encore plus émerveillée par ce monde nouveau dont elle ignorait la réalité. Elle avait certes vu des photos, des documentaires sur le Paris d'avant-guerre, mais tout, ne serait-ce que le ciel avec ses dentelles de nuages, lui semble une œuvre d'art. « Que cette ville devait être belle !» s'extasie-t-elle. « La plus belle du monde !» approuve Alice. « Enfin, de mon point de vue. Mais je dois avouer qu'avec cette faune, cette flore luxuriante et sans les voitures, elle dégage un charme nouveau qui ne me déplaît pas. » Juste à cet instant, un groupe de flamants roses d'un rose fluorescent s'envole de l'île aux cygnes, située face à l'ancienne maison de la radio, apportant une touche colorée supplémentaire. Plus loin, des chevaux blancs tachetés de noir s'abreuvent tranquillement dans l'eau du fleuve, au milieu des nénuphars recouverts de minuscules crapauds noirs. Les deux sapiens, postés à l'avant de la péniche, scrutent, fascinés, le paysage de jungle urbaine qui se révèle devant leurs yeux. Ophélie n'en revient pas d'autant de couleurs, de perspectives, de plantes et d'animaux. Ce qui est quand même étonnant, c'est que tous ces êtres végétaux et animaux ont su s'adapter à une atmosphère irradiée à 30 millisieverts, réfléchit Alice à voix haute. N'est-ce pas déjà ce qui s'était produit à Tchernobyl ? Demande Ophélie qui se remémore un passage de l'encyclopédie du savoir relatif et absolu que lui avait lu sa mère. Tu as raison. Tout comme sont apparues des malformations probablement issues de l'action des radiations sur les fœtus. Comme maman et sa syndactylie. Les deux femmes repèrent un nouveau groupe de sangliers à trois yeux qui semblent les observer depuis la berge. C'est la preuve que mon ancêtre Paul Kammerer et avant lui Jean-Baptiste Delamarck avaient raison, note Alice. La programmation génétique se modifie pour s'adapter à l'environnement et donne ensuite naissance à des générations mutantes. Les scientifiques qui ont mené des recherches sur le projet ont appelé épigénétique ce nouveau champ de la science. Un cerf à la fourrure bleu turquoise, pourvu d'immenses bois blancs, pousse un long brame qui retentit au loin. C'est aussi la confirmation de ma théorie selon laquelle la nature aime la diversité, ajoute Alice. Maintenant que l'emprise uniformisante de l'humain a disparu, un esprit enfantin semble vouloir s'exprimer, qui crée des animaux de toutes les formes, de toutes les couleurs et de tous les caractères, comme pour s'amuser. Parle-moi encore de cette ville avant la guerre, demande Ophélie. Comment c'était avant ? Il y avait beaucoup d'habitants à Paris ? À peu près 5 millions. Cette jungle qui défile sous nos yeux, d'où émergent par endroits des ruines, était jadis un ensemble de maisons, d'immeubles et de rues ordonnées suivant différents plans établis au fil de l'histoire de la ville. Y circulait en permanence une multitude de bus, de camions, de voitures, de motos, de vélos, de trottinettes et de piétons. Surtout des voitures. Et l'ensemble produisait énormément de bruit et de gaz d'échappement. Les principaux animaux visibles étaient les chiens tenus en laisse et les pigeons. « Et il n'y avait pas de meute de chiens sauvages ?» s'étonne Ophélie. « Ni chiens sauvages, ni sangliers à trois yeux, ni cerfs bleus, ni flamants roses, » répond Alice sur un ton amusé. « Tu en parles comme si tu étais contente que la Troisième Guerre mondiale ait mis fin à cette ancienne manière de vivre à Paris. » Alice caresse la main de sa fille. « Ce que tu vois est peut-être le sens de l'évolution. » Comme si la nature, cherchant un répit pour pouvoir de nouveau se manifester librement, avait poussé les hommes à s'entretuer. Elle soupire et son regard s'assombrit un instant. J'ai moi-même participé à la pollution, au bruit, à la fumée, reconnaît-elle. Je prenais du plaisir à consommer et à acheter des objets en plastique que je jetais ensuite, parfois sans même les avoir utilisés. C'était l'ancien monde. Nous ne nous rendions pas compte. Mais tout cela est désormais bien fini et nous voilà maintenant comme les premiers Hébreux qui ont suivi Moïse pour bâtir un nouveau monde. À ce détail près que nous n'avons pas de terre promise et que ce que nous traversons n'est pas un désert mais une jungle, complète Ophélie. Les nautiques se relaient pour propulser la péniche, tandis que les aérials continuent de guetter les obstacles ou les menaces alentour. Alertés, les diggers s'activent alors à libérer le passage. Les 424 exilés suivent le parcours sinueux de la Seine, quittant la ville par Issy-les-Moulineaux au sud-ouest. Puis ils longent Boulogne-Billancourt et plus au nord Levallois-Perret, Asnières. Après plusieurs heures de navigation, la lumière du jour commence à décroître et la fatigue se ressent chez les chimères. Les diggers sont de plus en plus le mal de l'eau à cause des mouvements de roulis et de tangage du bateau. Les aériales se sont moins efficaces dans leur rôle de vigie. Eux aussi ressentent le mal de l'eau quand ils sont sur la péniche. seuls les nautiques comptent bien rejoindre ce concept extraordinaire dont Alice leur a parlé et dont ils ont vu de nombreuses représentations dans des livres ou des films, la mer, cette étendue aquatique qui s'étalerait à l'infini. Alors que la nuit tombe, la péniche se retrouve bloquée par un barrage, qui cette fois-ci semble infranchissable, un ensemble de troncs, de tôles et de béton sur lequel circulent des castors albinos deux fois plus gros que ceux que connaissait Alice. Alors que les diggers proposent de se battre avec les rongeurs, aidés par les aérials et les nautiques, Alice tranche. C'est le signe qu'il faut s'arrêter. Elle s'adresse alors au groupe. Tout le monde est fatigué. Il est temps de trouver un abri. Je vous propose de débarquer et de continuer à pied. Et ensuite ? Demande Ophélie. Nous pourrions peut-être chercher un milieu forestier pour nous poser. À la demande d'Alice, Hermès survole la zone avec le compteur GGR pour trouver l'endroit où la radioactivité est la plus faible. Au bout d'une heure, il revient en annonçant « Plus au nord, près d'un étang, la radioactivité est à moins de 10 millisieverts. » « Guide-nous !» répond aussitôt Alice en récupérant le compteur. En longue file indienne, le groupe s'enfonce dans une zone qui devient peu à peu une forêt. Le soleil couchant a laissé la place à la pleine lune qui éclaire le chemin en laissant filtrer sa clarté entre les feuillages. Autour d'eux, la végétation bruisse de mille sons produits par les insectes et les animaux sauvages. Plus on s'enfonce dans la forêt, plus le niveau de radioactivité baisse, signale Alice en examinant le compteur GGR qui indique moins de 12 millisieverts. On dirait que ces grands arbres ont absorbé les radiations. Après une heure de marche, il débouche dans une clairière. Au centre, un étang ceinturé de grands arbres et bordé d'une petite villa au sud et d'un parking au nord. Une pancarte indique « Étang de la forêt de Cucufa ». Alice examine les alentours. « J'aime bien cet endroit. » Cette fois, le compteur GGR indique le niveau temps espéré de 10 millisieverts. Les deux humaines hésitent, puis c'est Ophélie qui, la première, prend l'initiative d'enlever son casque et sa tenue de protection anti-radiation, suivie par sa mère. Toutes les deux prennent de grandes goulées d'air frais, et cet afflux d'oxygène leur donne une sensation d'ivresse. Que c'est bon de pouvoir enfin respirer de l'air non filtré. Des odeurs aux fragrances subtiles font frétiller les narines d'Ophélie. Un mélange de parfums de fleurs, d'herbes, mais aussi de bois et de différentes matières en décomposition. Instinctivement, elle ferme les yeux pour encore mieux percevoir toutes les nuances de ces informations sensorielles inédites. Les insectes, les chants d'oiseaux, le bruit du vent, tout la ravit. Elles sentent l'air sur leur visage et leur peau semble être une membrane ultra-sensible. Alice touche le sol et enfonce ses doigts dans la terre meuble. Ophélie s'accroupit et fait de même. Les deux femmes apprécient le contact de leurs mains nues avec cette matière brune. Puis, elles touchent les troncs, les feuilles, les herbes. Alice hume les fleurs, en introduit même certaines dans sa bouche et les mâche. Nos cinq sens peuvent enfin fonctionner. C'est comme si la parenthèse de la Troisième Guerre mondiale se refermait enfin, dit-elle. Mère et fille respirent amplement plusieurs minutes, l'air qui embaume l'odeur des mousses, des résineux et de l'étang où fermentent quelques algues. Autour d'elles, les hybrides, en cercle, attendent patiemment les prochaines instructions de leur guide Sapiens. En tant que leader naturel de l'expédition, Alice s'adresse au groupe. « Bien, nous avons atteint une zone de très faible radioactivité. Nous allons construire ici un village. » Poséidon lève la main. « Pour nous, les nautiques, il est indispensable d'avoir un accès permanent à l'étang. Donc, je propose que ce village touche le bord de l'eau. » Hermès réclame à son tour la parole. « Pour notre part, nous aimerions qu'il soit très près des grands arbres, que nous puissions avoir de la hauteur. »
« Nous, les diggers, nous souhaiterions développer une cité souterraine. Cette clairière sera parfaite. »
Alice tente de satisfaire chacun. « Je comprends vos requêtes spécifiques. Nous allons donc installer une communauté composée de 3 villages séparés. Elle sort de son sac à dos un papier et un crayon. Elle dessine l'étang, place au nord le territoire des 140 diggers, à l'est celui des 140 nautiques et à l'ouest celui des 139 aerials. Plusieurs hybrides viennent observer ce plan. Ophélie et moi habiterons la villa au sud de l'étang, celle que nous avons aperçue à notre arrivée. Sans attendre, chaque groupe se sépare et installe un bivouac temporaire pour la nuit. Tous commencent déjà à discuter pour organiser l'aménagement de leur territoire respectif. Leur excitation est palpable.